Vous écoutez RTL.
Bonne journée à tous, RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Dans un instant, nous passons en revue les sorties au cinéma de ce mercredi avec Stéphane Boutsock. Nous vous aiderons peut-être à vous faire une idée aussi sur le film polémique Chez nous, qui raconte l'ascension d'une figure d'un parti d'extrême droite. Elisabeth Martichoux nous rejoindra. Elle a également vu le film pour nous. L'actualité musicale marquée par les nouveaux albums d'Albin, de la Simone et de Peter Peter. Si vous êtes amateur de chansons françaises soignées et intimes, leurs univers devraient vous plaire. On les découvrira avec Steven Bellery. Charlotte Arrigoni nous livrera ses express du jour. Et puis après 10 ans de folles aventures, les familles Boulet-le-Pic tirent leur révérence ce soir sur France 2.
C'est eux qui sont zinzin.
Ben, ils sont un peu zinzin, oui. À 21h avec la diffusion des deux derniers épisodes de Fais pas ci, fais pas ça. Ce sera bien entendu le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Le cinéma, donc, pour commencer, avant de parler des 15 sorties de ce mercredi avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour.
Jetons un coup d'œil au box-office de notre semaine.
Voilà, ben, les semaines se suivent et se ressemblent. Les comédies françaises sont toujours au top. Alibi.com, on s'y attendait, prend les commandes avec plus d'un million d'entrées depuis mercredi dernier. Danny Boone et Red Dingue ne faiblissent pas ou quasiment pas. Le film passe largement la barre des 3,2 millions en 3 semaines. Mm-hmm. De son côté, sur un ton plus comico-tragique, on va dire, Rock'n'Roll 2 avec Guillaume Canet démarre très bien, avec plus de 600 000 spectateurs. À noter que le très beau film d'amour Loving a séduit 120 000 personnes et que 50 nuances plus sombres, dans un registre un peu plus musclé,
oui,
on va
plus
dire,
soutenu,
n'est-ce pas,
oui.
En a émoustillé près de 2 millions 40 jours.
Alors, place donc aux nouveautés à l'affiche. Elisabeth Martichoux nous a rejoint car nous allons évoquer Chez nous. C'est le film de Lucas Bellevaux qui a fait polémique bien avant d'arriver sur les écrans. Mmh. Stéphane, le scénario raconte l'ascension d'une étoile montante d'un parti d'extrême droite.
Le bloc patriotique dans lequel on peut en effet aisément reconnaître le Front National. Elisabeth va nous dire si ça ressemble ou pas à la réalité. Chez nous, en tout cas, c'est l'histoire de Pauline, infirmière à domicile, dévouée et aimée de ses patients. Ça se passe dans le nord de la France. Fille de militants cégétistes qui va être repérée par les dirigeants d'un parti nationaliste qui lui propose d'être candidate au municipal. Émilie Duquesne incarne cette jeune femme qui peu à peu va être séduite par les thèses de l'extrême droite jusqu'à devenir une sorte de marionnette de la présidente du bloc, Catherine Jacob, clone un petit peu forcé, on va dire, de Marine Le Pen, avant de se rebeller.
Alors, voilà pour le décor du film, Stéphane. Première question, est-ce que ça vous a plu ?
Alors, au début, oui, parce que Lucas Bellevaux s'intéresse à un thème passionnant. Comment et pourquoi ce qu'on appelle le petit peuple de gauche est devenu le petit peuple d'extrême droite ? Les zones de non-droit dans certains quartiers, le communautarisme, la place de la femme d'un côté, le racisme de fond, l'intolérance, la volonté de trouver des boucs émissaires de l'autre. Le constat m'a semblé à moi plutôt lucide. Ensuite, Bellevaux, il ajoute une espèce d'intrigue romantique entre Émilie Duquesne et un ancien militant vraiment néo-nazi, on peut dire. Et là, je trouve que le film se perd un peu, qui perd un peu justement ce qui rendait le film intéressant en route. Je ne sais pas ce qu'on prend.
On va Isabelle. Vous embaucher au service politique, bientôt, hein, Stéphane. Et, écoutez, moi, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant, notamment le personnage de Dussolier, qui est
qui joue le notable du village.
Qui joue le médecin, qui est le mentor, et qui va convaincre la jeune femme, fille de communiste, qui est jouée aussi très bien par Émilie Duquesne. Moi aussi, je pourrais le service culture pour là.
Voilà.
Qui la convainc de se présenter au municipal sous l'étiquette de bloc patriotique. Et la façon dont il amène le discours, la façon dont il va la rassurer sur le fait qu'elle peut porter le programme. Mmh. D'ailleurs, le programme, elle le porte très peu. On lui explique que c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit là, qu'on lui colorise un peu les cheveux parce qu'elle serait mieux en blonde, qu'elle fasse des grands sourires. L'important, c'est qu'elle connaît tout le monde parce que c'est une infirmière libérale. Elle connaît toutes les personnes âgées. Toutes les familles, et que c'est comme ça qu'elle va pénétrer dans les foyers et apporter de la justice sociale. Et la façon dont Dussolier porte la dédiabolisation, la normalisation du discours FN est absolument, je trouve, très juste. C'est pas un film positif sur le Front National, mais ça n'est pas non plus un réquisitoire lourd. C'est pas positif, mais c'est pas non plus ultra négatif.
Vous avez passé un bon moment ?
Eh bien, moi, j'ai pas été très à l'aise par cette difficulté à Lucas Bellevaux à vraiment trancher. Voilà, ouais. Je ne dis pas qu'il faut faire un film pro-FN ni anti-FN, mais du coup, on ne sait pas très bien où on est. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la peinture de cette jeune femme mère de 2 enfants, toute seule, infirmière libérale, qui essaye de se démener. Toutes les femmes se retrouveront, toutes les femmes seules, toutes les femmes qui ont du mal à finir les fins de mois, et finalement, bah, elle tombe dans les filets du Front National parce qu'elle est un peu perdue socialement.
Émilie Duquesne l'incarne vraiment très très bien.
À vous maintenant, hein, de vous faire votre idée. Chez nous, de Lucas Bellevaux sort donc aujourd'hui au cinéma. Merci beaucoup, Elisabeth Martichoux.
Stéphane,
Stéphane, je vous garde avec moi parce qu'on évoque maintenant les autres sorties de ce 22 février. Toujours côté français, on rappelle celle de Si j'étais un homme 2 et avec Audrey Dana, dont vous nous disiez plutôt beaucoup de bien hier, avec quelques réserves ici même. Parlez-nous maintenant de Lion, un des challengers des prochains Oscars.
Film tiré d'une histoire vraie qui se déroule entre l'Inde et l'Australie, celle de Saru, un petit garçon de 5 ans qui va se retrouver seul à des milliers de kilomètres de sa famille, perdu, sans connaître le nom du village dont il vient. Alors il va échapper au péril de la rue, à des réseaux de prostitution, il va être placé dans un orphelinat et adopté par une famille australienne. 25 ans plus tard, Saru est devenu un brillant étudiant, mais il ne parvient pas à oublier ses racines. Grâce à Internet, et c'est là où l'histoire vraie prend toute sa dimension, et à Google Earth, vous savez, ce moteur de recherche qui permet de zoomer sur des cartes, il regarde des milliers de photos de la région de l'Inde où il a été abandonné, et il va finir par reconnaître la gare où il s'est perdu. La suite est au cœur de ce très joli film sur la famille et les origines. Lion ou Lion offre aussi à Nicole Kidman un très beau rôle de mère adoptive totalement dévouée à son fils.
C'est le genre de texte que vous commencez à lire et qu'il vous est impossible d'abandonner. Pour être honnête, au fond, ça me plaisait beaucoup que mon personnage soit australien, ça ne m'arrive pas si souvent, et que nous tournions en Tasmanie, une région que j'adore. Et puis, j'ai rencontré Sue en personne. Je me suis retrouvée face à quelqu'un de très spécial. Elle a un rapport particulier au monde, à la manière d'y trouver sa place. C'était vraiment un honneur de l'incarner. Elle est aussi intègre que le raconte l'histoire. Il fallait que je m'en imprègne. C'est une véritable Australienne, vous savez. Nous sommes à la fois d'ici et d'ailleurs.
We're few and far between.
Nicole Kidman, nommée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin, mais aussi Dev Patel, donc dans Lion 2, très très bon acteur, de film de Garth Davis, qui sort aujourd'hui, sorti également d'un autre film nommé aux Oscars, dimanche, Fences 2, et avec Denzel Washington, adaptation d'une pièce de théâtre. Ça se passe dans les années 50, ça raconte comment un éboueur, ex-espoir du baseball, tente de faire survivre sa famille. C'est un petit peu longuet, ça fait un peu théâtre adapté, parce que c'est une pièce de théâtre encore une fois. Mais le texte est assez magnifique.
Alors, je sais Stéphane que vous êtes amateur de cinéma fantastique et vous avez beaucoup aimé le film Split.
Signé M. Night Shyamalan, l'auteur du Sixième Sens, du Village ou encore de l'effrayant The Visit récemment. Il a cette fois imaginé qu'un homme souffrant de troubles de la personnalité kidnappe 3 adolescentes, lesquelles vont devoir vivre et affronter quelques-unes des 23 identités de leur ravisseur.
Ça fait du monde dans une seule personne.
Ça, je vous le confirme. Tour à tour, psychopathe, enfant de 9 ans, femme stricte ou monstre bestial, l'angoisse est présente du début à la fin. James McAvoy, qui incarne Kevin, le schizophrène, est parfait dans le rôle. Il résulte ce film de travaux entamés par Shyamalan sur le sujet quand il était à la fac.
Non seulement ils sont persuadés d'être ces personnages, mais en plus ils deviennent ces personnages. C'est incroyable. Par exemple, c'est un fait qu'une des identités peut avoir du diabète et prendre de l'insuline. Mais si l'individu change de personnalité et que vous lui en donnez, il meurt. Faites venir un médecin le lendemain et il ne lui trouvera plus de diabète. Normal, vous répondra-t-il, c'est pas moi qui en ai, c'est l'autre moi. Imaginez que vous pensiez à un Russe de 120 kilos capable de soulever 200 kilos de fonte. Bien sûr que vous le ferez, car vous pensez vraiment en être capable. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, genre « je vais gagner la course ». Non, là, tout votre être croit fermement que vous êtes cette personne.
Split, gros succès au box-office américain pour Shyamalan, signe de son retour en grâce pour cet ex-petit prodige d'Hollywood.
Voilà pour notre cinéma. Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Et nous allons maintenant, avec Isabelle Morini-Boss, nous intéresser à notre soirée télévisée d'hier. Résultat d'audience avec nos camarades de Médiamétrie.
Eh bien, je suis ravie parce que qui est en tête? La stagiaire sur France 3. 4 510 000 personnes étaient hier devant donc notre stagiaire Michel Bernier. 18% du public sur France 3. C'est un très joli score, d'autant que la concurrence était tout de même Harry Potter et les Reliques de la Mort sur TF1. 3 300 000 et 15% du public. Et en troisième position, c'est l'inoxydable Stéphane Plaza qui fait la maille, comme on dit en langage de pêche, près de 3 millions de téléspectateurs et 14% du public. Là aussi, c'est un joli score. Et côté TNT, c'est C8 avec Le Contrat qui est en tête, 1 100 000 téléspectateurs avec Bruce Beresford.
Vous consultez du regard Stephen Bellery pour voir si votre prononciation était la bonne. Mais le professeur Bellery était dans ses notes. Dans quelques instants, Charlotte Arrigoni est avec nous avec deux amis de la famille, en l'occurrence George Clooney et Cate Blanchett.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte. Alors, à deux jours de la 42e cérémonie des Césars à Paris, George Clooney se met dans la peau de son personnage.
Un César d'honneur lui sera remis vendredi en direct de la salle Playel. Et bien, pour nous mettre l'eau à la bouche, Canal+ a dévoilé une petite vidéo humoristique en présence de l'Américain de 55 ans. George Clooney se fait alors interviewer dans une cabane en bois.
George, c'est un honneur pour nous, on va vous remettre un César.
Ouais, je suis César.
Non, on va vous donner un César d'honneur, on va vous donner un César, George.
Non, je suis César.
Les Césars, c'est
français. Je suis César.
George Clooney qui pointe du doigt à la fin l'affiche du film des frères Cohen Ave César, dans lequel il a joué l'an dernier. Je vous rappelle par ailleurs que la 42e cérémonie des Césars sera à vivre, bien sûr, sur RTL, vendredi à 20h, avec Stéphane Boutsock, Laurent Marsic et Vincent Perrault, entre autres.
Alors, Cate Blanchett, par ailleurs, va créer l'événement à partir de vendredi aux Beaux-Arts de Paris.
Oui, l'actrice américaine va être au cœur de l'installation vidéo Manifesto du réalisateur allemand Julian Rosfeld. Il y aura 13 vidéos dans lesquelles Cate Blanchett sera grimée dans des situations et des décors différents. Elle enfilera le costume d'une présentatrice télé, d'une ouvrière ou encore d'un clochard. Elle interprétera en fait les manifestes des grands mouvements du XXe siècle écrits par André Breton, Guillaume Apollinaire ou encore Lars von Trier. Le résultat est franchement bluffant. Il est donc à découvrir du 24 février au 20 avril prochain aux Beaux-Arts de Paris.
Nous allons maintenant jeter un œil sur le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Avec plaisir. Et l'événement cette semaine se passe du côté des essais et documents avec l'entrée en fanfare à la première place du nouveau livre de Frédéric Salmann, Votre santé sans risque.
Le bon docteur Salmann qu'on retrouve également sur RTL le samedi et le dimanche à 7h50 avec Bernard Poirette.
Et alors du côté des romans, c'est le troisième tome de la saga napolitaine d'Elena Ferrante, l'ami prodigieuse qui prend la tête du palmarès devant Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson et Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano.
Palmarès complet à retrouver bien entendu dans les colonnes de L'Express. Petite musique qui vous dit forcément quelque chose. Hein. Les grosses têtes d'RTL reviennent à la télévision.
Oui, notez bien la date. Les grosses têtes de Laurent Ruquier seront sur France 2 le samedi 11 mars prochain à 20h55. La chaîne publique propose un nouveau prime time juste avant le traditionnel numéro dont n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Parmi les grosses têtes du soir, il y aura notamment Chantal Latsou, Laurent Baffy, Caroline Diamant ou encore Fabrice et Sophie Davant.
Et puis enfin pour terminer, évoquons tout de même le défi fou d'Abraham Poincheval au Palais de Tokyo à Paris.
C'est peu dire qu'il s'agit d'un défi fou, puisqu'à 14h cet après-midi, Abraham Poincheval va se glisser dans un bloc de pierre de 12 tonnes, une cavité en forme de silhouette humaine assise qui va se refermer sur lui et il va y rester 8 jours. Abraham sera relié à l'extérieur par un petit conduit de ventilation percé à travers la pierre et il se nourrira de viande séchée.
Abraham Poincheval est un habitué de ce genre de performance artistique. Je suis déjà étouffé rien
d'y penser. C'est ça, puisqu'il a déjà passé une semaine sur une petite planche perchée à 20 mètres du sol à Rennes. Il a vécu 2 semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé et a remonté le Rhône à bord d'une bouteille géante. Il faut savoir qu'après son séjour dans la pierre au Palais de Tokyo, sachez qu'il entamera la couvaison. La couvaison d'une dizaine de poules. En espérant l'éclosion de quelques poussins. Monique Younes le suivra pour RTL fois l'expérience et viendra nous en parler bien sûr.
Monique, dès qu'il y a un truc dingue, elle est de la partie. Hein. Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Musique à présent avec deux chanteurs qui font l'actualité cette semaine. Deux artistes qui incarnent une chanson française élégante, exigeante. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence avec Albin de la Simone. Il publiera vendredi prochain L'un de nous.
Oui, Albin de la Simone est comme les bons vins. Il se bonifie avec le temps, ce 5e album. Et son meilleur enregistrement. Plus le temps passe et plus ses chansons sont dépouillées, plus concises, la plume est de fait plus précise. Arrangeur pour Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert, Raphaël, Jeanne Chéral, Alain Chamfort ou Miossec, Albin de la Simone gagne à être connu pour ses chansons à lui, comme Le Grand Amour qui ouvre son nouveau disque.
Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour. ça n'existait pas.
Albin de la Simone a innové musicalement. Il a eu l'idée d'étouffer son piano en glissant une couverture entre les marteaux et les cordes. Il a aussi innové en studio.
D'habitude, un disque, on enregistre les voix à la fin. Moi, j'ai décidé d'enregistrer mes voix et mon piano en premier, comme si j'étais en concert solo. Donc, j'ai fait ça en deux jours. Et ça, je me suis ordonné après de ne plus y toucher du tout. Donc, je l'ai beaucoup habillé, mais tous les arrangements que j'ai ajoutés, donc des cordes, des harpes, des cloches, des, tout ce qu'on veut, des batteries, des guitares, tout ça devait respecter les voix que j'avais enregistrées à l'origine plutôt que faire des voix qui respecteraient mes arrangements. C'est un truc que j'ai compris en travaillant avec Miossec ou Vanessa Paradis qui ont des voix atypiques mais tellement belles. Je me suis beaucoup posé la question de à quel endroit il faut les placer pour qu'elles soient valorisées, pour qu'elles soient belles, puisque j'étais réalisateur et arrangeur pour eux. Et je me suis enfin posé la question pour moi et me dire mais j'ai d'abord posé ma voix et après je vais faire la musique. Et si elle va pas, je refais pas la voix, je refais la musique.
L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien. En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain.
Albin de la Simone n'est pas très original, il chante l'amour, Steven.
Oui, mais à 46 ans, Albin de la Simone ne s'est pas focalisé sur n'importe quel amour.
Ce disque parle beaucoup de la vie, évidemment, du temps et de l'amour. Bon, ça, c'est à peu près tous les disques qui parlent de ça. Je parle de la manière dont l'amour s'inscrit dans le temps, ou le temps dans l'amour, et dont on vit l'amour quand on ne parle plus d'un amour de jeunesse. On parle d'un amour mûr et de cette forme-là. Et je fais clairement des chansons sur l'amour d'adulte, en fait.
Ma barbe pousse, mais tu ne l'aimes pas. Ah ça oui, j'ai saisi, je vais m'arrêter là. Je resterai ici, tu rentreras là-bas. Et dans ses bras, lui, peut-être arrivera enfin l'enfant maudit qui ne me voulait pas. L'enfant qui nous tarit et qui nous sépara.
Ma barbe pousse, très jolie chanson sur la peur de ne pas devenir père. L'un de nous, c'est le nom du nouvel album d'Albin de la Simone dans les bacs vendredi prochain. Il part en tournée dès le 23 mars. Il chantera notamment à l'Européen à Paris le 3 avril.
Embrasser dans le cou, on a eu chaud, on a eu peur, on a tourné pendant des heures. On a eu chaud, on a eu peur, on est sauvé. Pourquoi on pleure? On a eu chaud.
Deuxième album maintenant et deuxième chanteur, il s'appelle Peter Peter et il vient de sortir Noir Eden, Steven.
Il est québécois, il a 32 ans, Noir Eden, et son troisième disque, collection de 12 titres éclectiques et fantasmagoriques. Peter Peter a la voix androgyne et un don pour les mélodies entêtantes.
Je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de mur. Maintenant que je sais, je crois enfin tout comprendre.
Planante, arrangement acidulé, Peter Peter signe parole, musique, réalisation, arrangement et même l'enregistrement. Cet album s'écoute comme une séance d'introspection à voix haute, un travail qu'a débuté l'artiste en s'installant à Paris il y a 3 ans.
Je pense que j'avais ce fantasme-là depuis que j'avais 16 ans, de juste recommencer tout à zéro, d'avoir aucune base, d'avoir aucun ami. Et je ne l'avais jamais vraiment vécu au final. Je me souviens que je voulais faire des fugues adolescent et aller à Toronto. Pour moi, c'était un peu l'exotisme parce qu'on parlait anglais là-bas. Finalement, je ne l'ai jamais fait parce que je ne voulais pas faire trop de peine à ma mère. Fait que c'est arrivé très tard, c'est 29 ans, mais c'est la solitude avant tout que je suis venu chercher. Ouais. L'album raconte un peu ça, la recherche de solitude et l'introspection et de finir par se perdre à l'intérieur de soi-même et comme dans un labyrinthe. Et là, une fois que l'album est terminé, j'ai réussi à en sortir. Et maintenant, j'y fais attention parce que je me suis bien perdu quand même.
Vénus, Vénus, c'est la chatte de Peter Peter qui l'a accompagné dans la création de son disque. Le Québécois n'a pas lâché son synthétiseur OP1 pendant la création. Les sonorités années 80 se marient aux paroles mystiques et codées. Le résultat, une pop francophone, efficace, éthérée. Un petit dernier extrait, la chanson s'appelle Orchidée.
Oui.
Orchidée, t'es chromosome, comme un fruit, comme un...
Moi, Eden, c'est le nom du nouvel album de Peter Peter. Il chantera le 28 février au Café de la Danse à Paris, le 17 mars à Reims ou encore le 5 mai à Mérignac.
Merci beaucoup Steven Bellery pour ces deux découvertes. Dans quelques instants, notre soirée télévisée et un anniversaire que nous allons fêter avec Isabelle Morelli-Bosque.
Je pense bien.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
À 9h23, notre soirée télévisée Isabelle Morelli-Bosque. Alors, on fête ce soir un anniversaire à 20h55 sur France 2.
Eh bien, donc, vous l'avez dit, c'est celui-ci. Eh oui, 10e anniversaire de Fais pas ci, fais pas ça, lancé en septembre 2007. Fais pas ci, fais pas ça, qui se termine ce soir après 9 saisons racontant le quotidien des familles voisines Le Pic et Boulet. Tous canons, Boulet canon. Mais ce soir, nous sommes en 2027. Ils sont fâchés. Nicolas Hulot est président. D'où un surtri des ordures.
7 sacs. Rends compte, ce papier recyclé, là, ça coule, j'en ai plein les mains, c'est dégueulasse.
Mais depuis que Nicolas Hulot est président, c'est l'enfer, l'enfer, les poubelles.
Alors, bio-organique.
Jaune.
Ouais. Tube de maillot, ça c'est dans déchets pétrolifères. Hein.
Vieux rose, rose bonbon. Mais où tu veux, de toute façon, on n'a pas voté Hulot.
Oh, t'as raison.
C'est la mauve. Un peu de sens civique, merde. Respectez les règles de la République, même si ça vous plaît pas.
Voilà, je vous l'ai dit, ils sont fâchés. Il y a 10 ans, cette fiction se présentait comme une télé-réalité avec deux familles se racontant devant la caméra. On écoute, avec aussi les souvenirs du producteur Thierry Bizot.
Je m'appelle Renaud Le Pic, voilà, j'ai 43 ans. Je suis numéro 3 de l'entreprise Binet, fabricant en matériel de balnéothérapie.
Bon bah moi je m'appelle Fabienne, j'ai 39 ans et donc je suis la femme de Renaud. Donc je m'occupe de nos 4 enfants.
À cette époque-là, nos enfants commençaient à être adolescents. Je me suis dit que ce serait drôle de faire une comédie sur l'éducation. On aurait deux familles, une famille un peu stricte et l'autre famille un plus dans la mode, de la compréhension, du dialogue, etc.
Voilà. Je m'appelle Valérie Boulet, j'ai 38 ans. Je suis responsable de projet dans une grande boîte d'événementiel. Je suis mariée avec Denis, qui a 37 ans, qui est en recherche d'emploi.
Oui, enfin, pour être précis, je suis en période de restructuration professionnelle.
Il fallait qu'ils se plantent de la même façon. Enfin, c'est Freud qui disait, il y a deux métiers qu'on est sûr de les rater. Un, c'est prof et deux, c'est parents.
Christophe passe ses cours à se curer les ongles avec son compas.
Mais tu te tréfouilles les ongles avec ton compas. Mais t'es pas bien, non? Tu veux te faire un panari?
Voilà. Le casting est alors lancé par la scénariste de génie Anne Schiaferi, épouse de Thierry Bizot. Isabelle Gélinas et Bruno Salomon, le couple Boulet, ont l'habitude de la télé, sont en revanche peu connus du public télé. Valérie Bonneton, qui accepta le projet après un rêve lui disant qu'elle devait se bouger, et Guillaume de Tonquédec.
Je suis arrivé, moi, bien coiffé, avec mon petit attaché caisse que j'ai toujours.
Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est le seul acteur qui n'ait pas une tête d'acteur.
C'est vrai.
C'est vrai.
T'as raison.
Je veux dire qu'il n'y a pas le look de l'acteur, quoi.
On croit que je sors d'une banque, moi.
Je me suis dit ça. Oui, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Je suis prof de maths, donc on peut mettre des personnages dessus.
Voilà, la chaîne retient leur projet parmi cent autres. C'est lancé le samedi à 19h. La critique adore, à double, le public boude. Isabelle Gélinas se souvient.
On a eu la chance d'avoir un directeur de la fiction qui aimait beaucoup la série et qui a dit non, on l'a mal programmé, mais c'est bien, on tente une saison.
Et à 20h50, s'il vous plaît, et ça marche, elle nous rassemble parce qu'elle nous ressemble, ces deux familles avec des sketchs cultes. Un de mes préférés, c'est la rentrée des classes.
Bah, tu vois, voilà. Hein, donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein, ça existe en grand carreau ou en 21 sur 29,7. Mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas.
Mais c'est marqué là.
Alors, ta professeure de français, on va lui prendre un cahier de 92 pages, hein, on va lui en arracher 44, on va lui faire un petit paquet, puis elle ira se torcher avec. Là.
Voilà.
J'ai fait le même sketch pour acheter mes cahiers il y a deux jours. Ah, moi, dans tout Paris.
Mais c'est justement parce que c'est nous. C'est nous tous, ces sketchs. Oui, voilà. Alors, la chaîne compte sur des séries comme 10% pour assurer désormais le quota de comédie, mais la même équipe d'Éléphants et compagnie prépare plusieurs 50 de Par un mode d'emploi, qui est actuellement diffusé au quotidien, sans oublier plusieurs productions pour la 3, une nouvelle saison de La Stagiaire ou une mini-série d'été policière de 6 épisodes en cours d'écriture.
Ils ont du talent dans cette équipe. Oui. Alors, autre chose à signaler?
Coup de cœur, C8, la retransmission de H-Tan de la tournée des Idoles, un spectacle produit par Christophe de Chavannes et enregistré au Zénith de Nantes le 4 février dernier. C'est Hugo Frey qui ouvre le bal.
Vous savez que la France a deux nouveaux héros magnifiques, Francis Joyon et Armel Lecléac. Je voudrais maintenant chanter cette chanson pour tous ces navigateurs français qui brillent à travers le monde. Et exceptionnellement, bien que ce soit un début de spectacle, je vous autorise à danser si vous en avez envie pour rendre hommage à ces grands mains. On y va. C'est pas l'homme qui prend la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta, c'est pas ça? C'est un fameux trauma, fait comme un oiseau. Du haut, sorti à un eau,
suis une 400 euros. Je suis fier d'y être.
Vous me le confirmez, Steven? 87 ans.
87 ans, c'est une merveille, c'est Hugo Frey.
Ah mais oui, mais moi j'adore cette tournée.
Vous avez vu sa silhouette?
Bravo. Ah oui, 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 oh là là, j'ai vu.
Il est beau comme un dieu grec.
Il a toujours été beau, à tous les âges il est beau.
Bon, bah
c'était
voilà.
Mon mot,
c'était
mon mot de la fin.
On a fait notre petite déclaration d'amour Hugo Frey. Maintenant, on va replier nos cartables et on va se retrouver dans quelques instants pour accueillir Julien Courbet.
Vous écoutez RTL.